Moi, je suis super ouvert pour qu'il y ait des jeunes qui arrivent. Formons-les, soyons plus nombreux, pourquoi pas. Et puis, s'il y a de plus en plus de projets, tant mieux. J'espère qu'il y aura de plus en plus de travail. Mais pour ça, il faut qu'ils libèrent du budget.
Tu penses qu'à combien il faudra de plateaux en France, à vue de nez comme ça?
Bon, je pense qu'on doit être à vraiment vivre et travailler à les 40.
Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Christophe Brachet, photographe de plateau depuis une quinzaine d'années. Spécialiste du portrait et de l'univers du cinéma, il nous parlera de ce métier assez méconnu et qui fait rêver beaucoup de photographes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Christophe et vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour Christophe, est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour, je m'appelle donc Christophe Brachet, je suis photographe de plateau depuis 15 ans. Avant ça, j'étais pas photographe, j'étais prof de plongée, prof de surf en Martinique pendant 10 ans. Et je pratiquais la photographie en termes de loisirs. Et j'ai décidé de me lancer, de quitter la Martinique pour venir vivre à Paris et vivre du cinéma. Il y a donc une quinzaine d'années, et j'ai réussi à devenir donc photographe plateau à ce moment-là. J'ai découvert le métier grâce à Dominique Besnéard et je me suis lancé dans ce métier un peu à corps perdu et ça a tout de suite été une histoire d'amour incroyable parce que j'aime énormément les plateaux de cinéma et donc j'ai la chance de pouvoir faire ce métier depuis 15 années maintenant.
On va parler un peu de sa spécialisation juste avant ça. Donc, tu as commencé vraiment par la photo de portrait ou tu as commencé en faisant d'autres styles de photos? De portrait,
Ben moi,
pardon.
j'ai vraiment commencé. J'ai 48 ans, donc j'ai commencé la photo à 20 ans, donc c'était il y a 28 ans, donc c'était en Argentique. Et j'ai commencé la photo grâce à un prof de plongée lors d'un voyage en mer Rouge, où j'étais prof de plongée à 20 ans, j'étais étudiant. Et on est parti entre étudiants plonger en mer Rouge. Et il m'a prêté un boîtier avec une pellicule en noir et blanc parce qu'il voulait pas, il avait plusieurs boîtiers photo. Il ne voulait pas se faire de noir et blanc, il voulait faire que de la couleur. Et ça a été mon premier contact avec la photographie. Et j'ai tout de suite adoré faire des photos. Alors, si on se remet dans le contexte de l'époque, on ne voyait pas les photos tout de suite, il fallait les développer, c'était des diapos, enfin bref, c'était un peu long. Mais j'ai bien aimé ce système-là, j'ai bien aimé la photographie en noir et blanc, et ça a été mon premier contact, en tout cas, avec la photographie, et ça a tout de suite été un coup de foudre. Et j'ai toujours après continué un peu à faire de la photo, toujours en mode un peu amateur. Et quand je suis parti vivre en Martinique après mes études, effectivement, j'ai commencé à proposer une presta photo à mes clients en plongée, puisque j'étais donc prof de plongée, prof de surf. Et en plongée, surtout, je leur proposais un petit best-of avec des photos de poissons, de requins, de raies, etc., que j'avais photographiées lors de mes voyages. Et je leur proposais une presta photo pour eux, en souvenir. Et ça marchait plutôt pas mal et on n'arrêtait pas de me dire que mes photos étaient bien, mais je ne me suis jamais pris pour un photographe professionnel jusqu'au jour où ma compagne de l'époque m'inscrit à un concours photo à Paris, au Salon de la Plongée à Paris. Et je gagne le concours en photo noir et blanc. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire peut-être que mes photos sont pas si mal que ça. Donc voilà comment j'ai commencé la photographie. En tout cas, j'ai appris la photographie de manière totalement autodidacte, tout seul. Avec quelques conseils, parce que pareil, si on se remet il y a 28 ans, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était le Minitel, et donc il n'y avait pas de tuto pour savoir comment photographier.
Ouais, c'est vrai que ça a bien évolué. Et le milieu de la photographie de plateau, co comment ça se passe? Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est assez mystérieux pour déjà le commun du mortel, parce qu'on ne s'imagine pas forcément qu'il y a des photographes sur des plateaux ou à des photos, mais on pourrait se dire que c'est des captures d'écran, etc. Et encore moins pour les photographes professionnels qui rêveraient sûrement de faire ce métier en disant que c'est complètement inaccessible. Quel regard toi tu portes sur ce métier et c'est quoi le marché de ce métier?
Alors, c'est un marché qui est compliqué. Alors, effectivement, beaucoup de gens ne connaissent pas ce métier parce qu'ils voient des photos passer. On pourrait effectivement se dire que c'est des copies d'écran de la caméra. Et d'ailleurs, notre métier aujourd'hui disparaît à cause de ça. Même si on réfléchit 2 secondes, on se dit bien que la qualité n'est quand même pas la même. Et puis, le regard d'un photographe sur un film qui est réfléchi en 24 images secondes avec une caméra qui bouge et un metteur en scène, ce n'est pas la même façon de travailler quand on fait la photo. Donc, si on s'y connaît un tout petit peu en image, on comprend vite la différence. Mais c'est vrai que pour le grand public, ils voient des photos passer, ils voient des affiches de cinéma, mais ils ne se doutent pas que ce sont des métiers très spécialisés. C'est effectivement pas un photographe de presse, par exemple, qui va venir sur un plateau de cinéma. C'est ce que l'on appelle donc un photographe de plateau, qui est donc spécialisé sur les plateaux, que ça peut être aussi bien au théâtre, sur un plateau de télévision, et sur un plateau de cinéma, sur un plateau de série télé. Donc il y a plein de spécialisations différentes parce qu'il n'y a pas les mêmes façons de travailler. Même si dans les grandes lignes, c'est à peu près pareil, mais il n'y a quand même pas la manière, va pas être la même entre un unitaire pour France Télévisions et un long métrage pour le cinéma. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est spécialisé parce que c'est un métier qui doit être fait premièrement dans le silence et deuxièmement, il faut avoir une connaissance du plateau, c'est-à-dire comprendre les rouages d'un plateau, sachant que la photo de plateau n'est bien évidemment pas la chose la plus importante quand on tourne un film. Le plus important dans une journée de tournage, c'est de rentrer les plans dans les heures imparties. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre assez facilement. Donc, le photographe doit arriver à attraper des photos avec cette contrainte-là. Donc, savoir s'imposer à des moments, savoir être discret à des moments. Et son travail va servir après vraiment à promouvoir le film. Donc, soit pour faire une affiche de cinéma, soit pour faire des photos qui vont servir pour la promotion. Les photos, vous pouvez par exemple voir dans un magazine, Télé 7 jours, dans des magazines spécialisés de cinéma, que vous pouvez voir quand ils vont présenter un film aux 20h de la housse, par exemple, le dimanche soir. Les photos qui passent derrière, ce sont des photos de plateau. Donc voilà l'utilité de ces photos. Et l'autre utilité qu'on connaît un peu moins, c'est aussi l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est de faire pas que des photos de scène, mais jouées, mais aussi des photos de backstage. C'est-à-dire tout l'envers du décor, comment l'acteur se prépare, comment l'acteur se concentre, comment l'acteur existe dans ce plateau entouré d'autant de techniciens. Donc c'est un vrai travail de reportage en étant le plus discret possible pour montrer au grand public comment tout ça se fabrique. Alors malheureusement aujourd'hui c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de photos backstage, c'est souvent oublié par les producteurs et les distributeurs. Ils ont souvent tendance à ne communiquer que sur les photos de plateau pures et c'est un peu dommage. Donc, on essaye, avec les autres photographes plateau, de leur montrer l'importance de ces photos-là. Moi, j'en ai fait des expos, par exemple, on peut en public. Vous allez voir effectivement les stars que l'on prend en photo poster les photos et souvent ce sont effectivement des photos de photographes plateau. Pour y arriver ensuite, sur l'autre partie de ta question, moi, je pense que j'ai un parcours un peu particulier qui peut faire dire aux gens, tout le monde peut y arriver. Moi, j'ai jamais grandi à Paris, j'ai grandi près du bassin d'Arcachon, à côté de Bordeaux. Après, j'ai vécu 10 ans en Martinique. Je ne viens pas d'une famille d'artistes, je ne connaissais personne dans le cinéma. Je suis arrivé à Paris en ayant vécu donc 10 ans en Martinique, en étant prof de surf, prof de plongée et photographe que je considérais comme amateur. Donc, j'avais rien, je ne connaissais personne dans le cinéma. Mais je pense que mon envie a fait que j'ai un peu bousculé des choses, que j'ai une bonne étoile peut-être, mais que la chance, ben, j'ai su aussi la provoquer. Et en tapant à des bonnes portes, en rencontrant les bonnes personnes, ils m'ont fait confiance. Et je pense que je suis aussi arrivé avec un état d'esprit et un savoir-faire qui était très différent de ce qui existait à Paris. Forcément, si je me compare à un photographe ultra parisien, je ne suis pas dans cette veine-là, jamais une autre chose. Je pense que le vécu d'une personne, tout comme un acteur qui peut avoir aussi un vécu qui peut être très intéressant parce qu'il a vécu ailleurs, ben ça amène quelque chose. Moi, j'ai amené une dynamique et quand j'ai fait mon premier film, quand Dominique Besnéard, donc qui me repère lors d'un cours d'acteur parce que j'ai aussi essayé un peu l'acting et qui me laisse ma chance sur un film, où à l'époque je lui dis j'ai envie de faire ça et lui me dit mais pourquoi je vais te mettre photographe plateau, t'as déjà fait ça? J'ai fait non, mais je photographiais des requins avant, je devrais être capable de photographier un acteur sur un plateau, donc c'était un peu du toupet, mais ça lui a plu et il a dit, mais oui, pourquoi pas? Et la chance que j'ai, c'est que c'est un film avec Jean-Pierre Bacri, Vincent Rothier, que les acteurs adorent ma façon d'être sur le plateau parce que j'ai la même façon d'être sous l'eau, je pense, que sur un plateau, avec la même discrétion, avec le même respect des acteurs, et que ben, Jean-Pierre Bacri parle à moi, à d'autres acteurs, et que donc très vite mon nom circule et on fait confiance assez rapidement. Dominique Besnéard et Marie-France Brière me donnent aussi les clés de leur festival du film Angoulême, qui est un gros festival de cinéma en France, où il me laisse vraiment une carte blanche. Donc, je me fais aussi connaître grâce à ce festival. Et tout s'est enchaîné très vite. Et je me retrouve, au bout de 15 ans, à avoir fait à peu près 70 films, quoi. Donc, c'est quand même pas mal.
Ouais,
Donc, il faut croire en sa bonne étoile. Tout le monde peut y arriver. Et j'en suis le parfait exemple, en fait. Il faut pas, il faut se faire cynique. Je peux vous dire que le nombre de gens qui m'ont dit que je n'y arriverais jamais, parce que j'étais pas un fils d'eux, parce que je connaissais personne à Paris, parce que c'était un métier très compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de photographes à Paris, que je n'avais aucun bagage, aucune formation, aucune culture aussi, et c'est vrai. Mais voilà, j'ai juste beaucoup travaillé et j'ai réussi.
C'est super intéressant et chouette à entendre parce qu'effectivement, ça permet de relativiser aussi un petit peu. Alors, quand tu travailles sur un plateau télé, film, tu bosses pour qui concrètement? Tu bosses pour la boîte de prod ou tu bosses pour l'acteur, le réalisateur?
Alors, je suis effectivement employé par la boîte de production. Il y a deux façons d'être employé, soit en facture, soit en étant intermittent du spectacle. La plupart, quand même, des photographes plateaux sont intermittents du spectacle. Il y en a beaucoup moins qui sont en facture, souvent en salaire pour être protégé au niveau s'il y a un accident du travail, pour les assurances, etc. Donc, c'est souvent un peu plus facile d'être comme ça. Donc, on est donc souvent des intermittents du spectacle et c'est des producteurs qui nous emploient. Mais on vient souvent. Soit c'est les producteurs qui nous demandent et qui nous connaissent, avec qui on a l'habitude de travailler, mais aussi les acteurs et les réalisateurs peuvent avoir des photographes avec qui ils ont envie de travailler. Et moi, c'est souvent effectivement des acteurs qui vont m'emmener sur un projet avec qui on a souvent travaillé. Donc, ça peut être toutes ces personnes-là qui peuvent nous faire venir, d'où la rencontre et bien s'entendre avec les acteurs, c'est quand même très important, et avoir leur confiance, ce qui paraît très logique, hein. Un acteur, son fonds de commerce, c'est leur image. Donc, qu'on fasse des photos, qu'on les filme, ils y accordent une grande importance et ils ont une grande exigence par rapport à ça, ce que l'on peut parfaitement comprendre. Donc, le nerf de la guerre, c'est vraiment ça. C'est avoir une confiance pour arriver à travailler derrière.
Toi, tu es intermittent?
Oui, exactement. Moi, je suis intermittent. Moi, je préfère être intermittent qu'être sur facture. Je préfère effectivement avoir cette stabilité de l'emploi, entre mes guillemets, pour quand je ne travaille pas, effectivement, toucher le chômage. Mais aussi, surtout, quand je suis employé comme ça, j'ai une assurance. S'il y a un accident, alors, c'est jamais arrivé, mais je trouve que on est mieux protégé quand on est salarié que quand on est effectivement sur facture. Donc, moi, je préfère ça. On gagne effectivement un tout petit peu moins quand on est sur salaire que sur facture. Mais je préfère gagner un petit peu moins et cotiser un peu plus à la retraite, on va dire. Même si je ne sais pas si j'en aurai, comme beaucoup de gens, mais en tout cas, voilà.
Ouais, c'est la grande question. Mais c'est vrai que le statut est assez intéressant, au final, le statut d'intermittent.
Oui. Le statut d'intermittent est intéressant. Après, nous, dans le cinéma, on a aussi des conventions collectives qui donnent les salaires, qu'on soit électro, machinaux, script, cadreur. Il y a ce qu'on appelle des tarifs minimums syndicaux. Donc, les photographes, on a également ça. Donc, on a des tarifs pour le cinéma, on a des tarifs pour la télévision. Pour vous donner un ordre d'idée, un photographe plateau, pour la télévision, je crois que le minimum syndical pour 8 heures de travail, c'est 250 euros ou 280 euros. Et pour le cinéma, c'est 300, 320 euros à peu près pour une journée de 8 heures. C'est pas énorme, mais ça ajoute à ça une session de droit par jour. En moyenne, une session de droit, c'est 300 euros par jour. Et ça ajoute à ça ce que l'on appelle une bijoute, c'est-à-dire un défraiement pour le matériel, qui en général, elle, est sur facture. Et c'est une centaine d'euros. C'est 100 euros, entre 100 et 150 euros. Vous pouvez retrouver tous ces tarifs. On a créé une association qui s'appelle PFA, Photographe Film Associé, dans lequel on a voulu montrer les tarifs qui se pratiquent parce que beaucoup de jeunes photographes qui commencent sont un petit peu perdus. Et je pense et je crois beaucoup en la communication entre les photographes plutôt que de, quand on ne sait pas, de casser des prix ou des choses comme ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on communique les uns avec les autres pour savoir quels sont les prix du marché, en tout cas les minimums, en dessous desquels il ne faut pas aller. Donc, sur ce site-là, PFA Photo, vous trouverez donc une grille, un onglet qui s'appelle Salaire, dans lequel on détaille tout ça. Donc, le paiement de votre journée, les sessions de droit, la bijoute, l'editing aussi. On essaie de dire tous les 4 jours de présence plateau, il faut nous payer un jour pour l'editing, puisque ça représente à peu près 2 heures par jour. Le tarif aussi pour les affiches de cinéma. Une affiche de cinéma, ça peut osciller entre 3 000 euros et 10 000 euros. Mais c'est de plus en plus rare d'avoir 10 000 euros, mais ça peut aller jusque ces sommes-là à peu près. Ce qui n'est pas énorme, hein, quand on y réfléchit, une affiche qui va être en 4 par 3 dans toute la France. C'est pas si énorme que ça. Donc voilà, donc ces tarifs sont en constant changement. Nous, on essaie de lutter pour qu'ils soient plus élevés parce qu'aujourd'hui, un photographe plateau peut gagner, s'il ne travaille pas tous les jours, pas autant qu'un photographe de mariage. Par contre, s'il travaille tous les jours, effectivement, il peut gagner correctement sa vie. Mais c'est des tarifs sur lesquels nous, on travaille beaucoup, en tout cas les photographes plateaux, pour les faire évoluer. Et moi, je crois beaucoup en la communication avec les gens. Moi, j'ai encore eu hier un jeune photographe plateau qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, qui, les directeurs de production, dès qu'ils peuvent un peu gratter, les pauvres, ils grattent parce qu'ils ont de moins en moins d'argent. Il faut aussi se mettre de leur côté aussi. Et souvent, la photographie plateau arrive à un moment donné où ils s'en rendent compte qu'une semaine avant le tournage, ils ont tout budgétisé, mais ils ont oublié le photographe plateau parce que ce n'est pas leur priorité. Donc, pour pas leur jeter la pierre, entre guillemets, ils sont souvent dans des situations qui sont un peu inconfortables. Et c'est pour ça que des fois, on se retrouve avec très peu de jours de présence plateau parce que ça n'a pas été assez budgétisé avant. Donc, moi, je pense que le nerf de la guerre, c'est que sur les projets, j'essaie toujours de dire aux producteurs, réservez entre 20 et 30 000 euros sur un budget de 8 millions d'euros pour le photographe plateau, pour qu'il puisse au moins venir sur 40 jours de tournage, 20 jours, la moitié du temps. Là, aujourd'hui, on est de moins en moins là, et moi, sur beaucoup de films, ça m'arrive d'être là même pas un quart du temps. Donc, sur un projet de 40 jours, sur un long métrage de cinéma, des fois, je peux venir que 6 jours sur le plateau. Donc, ça veut dire que très souvent, j'ai entre 2, 3, voire même 4 projets en même temps pour essayer d'avoir assez de travail dans le mois pour gagner ma vie. Donc j'ai cette chance-là aujourd'hui quand même d'avoir du travail, mais si on se place sur un jeune photographe au début de sa carrière, effectivement, il ne faut pas compter que sur ça, parce qu'aujourd'hui, il faut arriver à convaincre les producteurs d'être là plus souvent. Ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, les photographes plateaux sont encore là presque la moitié du temps, voire tous les jours, comme c'était le cas chez nous il y a encore 20 ans. Le photographe plateau était là tous les jours. Mais les choses ont changé, les budgets ont changé. Les plans de travail ont évolué, on a de moins en moins d'argent, on rentre des journées avec moins de journées qu'avant, il faut faire des économies partout. Par exemple, les making-of vidéo, avant vous en aviez tout le temps sur les films, maintenant il n'y en a quasiment plus du tout, alors que les plateformes sont en train de les remettre au goût du jour. Donc souvent, ce que je dis à la jeune génération, je pense qu'il y a des mentalités à changer, il y a des choses qui vont évoluer. C'est à vous, parce que c'est un métier un peu vieillissant, on va pas se mentir. Ça manque de jeunes. mais je pense que les jeunes qui arrivent, et j'en ai encore eu un au téléphone hier, ils sont super motivés, ils sont assez, je trouve qu'ils sont très talentueux. Ils sont nés avec le numérique, qui vont comprendre les choses qu'il faut pour Instagram, les choses qu'il faut pour TikTok, là où une ancienne génération va être un peu dépassée. Donc j'essaie d'être très optimiste et de donner un message un peu d'espoir et de dire, si vous arrivez avec des forces de proposition, je pense qu'il y a moyen de changer les choses dans ce métier. Mais il faut bousculer un petit peu les producteurs et les distributeurs aussi, dans leur façon de faire, je pense.
Ah, c'est super comme message et ça tombe bien que tu sois là parce que c'est un peu le but de ce podcast aussi, de libérer la parole et d'apporter des ressources à tout le monde, quoi. Parce que même les photographes, quand même, on a tous une vision parfois assez que solidaire, je trouve, pour le dire aussi, du métier. Moi, je le vois surtout dans le photojournalisme. C'est pas le métier dans lequel on donne le plus de conseils, on va filer des plombs entre nous. Donc, je trouve que c'est un peu dommage et merci pour ton partage et merci du coup pour cette ressource parce que. C'est intéressant d'ailleurs, tu parles des tarifs, du coup, tarif minimum, mais j'imagine que du coup, c'est vraiment le minimum et qu'après, ça peut monter plus haut.
Ouais. Alors ça peut monter plus haut, ça dépend. Moi là, pour vous expliquer, le dernier projet sur lequel je suis là, c'est donc Zorro, une série qui sortira à Noël avec Jean Dujardin. Un tournage qui se tourne entièrement en Espagne. C'est une coprode. C'est France Télévisions et la Paramount. Et donc je suis à 300 euros en salaire, 300 euros en session de droit par jour et 100 euros en bijoutes. Donc ce qui fait 700 euros en gros par jour. Et sur 72 jours de tournage, j'ai eu 20 jours de présence, étalés sur les 5 mois de tournage. Donc c'est pas énorme non plus, hein, je veux dire, mais bon, c'est déjà pas mal parce que au début, je pensais que j'allais être là que même pas 10 jours, quoi. Donc j'ai quand même pu avoir une certaine variété de photos. Donc voilà, donc ça comprend, les sessions de droit comprennent uniquement les photos en exploitation pour la. Pour parler du film, mais pas pour de l'achat d'espace publicitaire. Donc, si demain une de mes photos est choisie pour une campagne d'affichage, je devrais avoir un nouveau contrat de cession de droit. Donc là, ça pourrait devenir intéressant. Souvent, c'est comme les affiches de cinéma, quoi. Quand vous faites un film, vous essayez de faire l'affiche parce que vous savez que ça va vous rajouter entre 3 et 5 000 euros. Mais aujourd'hui, moi-même, le message que je peux des fois avoir auprès des producteurs et des distributeurs, c'est de faire attention parce qu'on est en train de précariser un métier. À nous faire venir aussi souvent, en plus en nous demandant d'être vraiment hyper disponible sur 6 jours, sur 2 mois, Ben, il faut faire attention parce qu'on précarise beaucoup les choses. Et je pense que si on veut justement attirer les jeunes parce que ce métier est vieillissant, il faut faire attention parce que ben, les jeunes, ils vont dire, vous êtes bien mignon, mais moi, je vais aller faire deux mariages, je vais gagner trois fois plus d'argent et je n'aurai pas autant de contraintes. Donc, j'essaye de faire prendre conscience, en tout cas au métier, de cette partie-là. Et ça sera aussi aux jeunes à leur faire prendre conscience. Il ne faut pas hésiter à dire les choses. Enfin, moi, je suis beaucoup pour la parole, je suis beaucoup pour qu'on soit solidaires les uns des autres. Et d'ailleurs, nous, les photographes à tout, dans l'association, on se remplace sur certains projets parce que quand on a plusieurs projets en même temps, on a des jours en doublon. Ou moi, ça peut m'arriver des fois, si c'est un tournage en Normandie et que j'ai un tournage qui est chez moi à Bordeaux, de dire, ben là, au niveau du transport, ça va me faire perdre trop de temps, on va prendre un photographe là-bas, par exemple. Donc, par rapport aussi à ce que tu disais, moi, je crois qu'effectivement, on a besoin de solidarité et je crois que moi, je crois beaucoup plus à l'émulation que ça va créer, en fait. C'est-à-dire que quand moi, je vois des nouveaux photographes qui arrivent, que je vois d'autres façons de travailler, je suis super content, en fait. Je me dis, super ce qu'il a fait, quoi. Qu'est-ce que je peux proposer, moi aussi? Donc, ça me fait me remettre en question. Et je pense que si on communique justement les uns les autres, on ne casse pas le marché et on devrait se créer un peu une vraie. Comme dans les compétitions de surf, un petit peu, quoi. On essaye de se challenger les uns les autres. Quand on voit un truc, on se dit, waouh, ce qu'il a fait, c'est vraiment ouf. J'ai envie de faire mieux. Et donc, voilà. Mais moi, je crois beaucoup à ça, en tout cas, à la parole entre les gens. Je réponds beaucoup à des gens sur Instagram, par exemple. Je suis très ouvert. Je dis souvent aux gens, si vous voulez me contacter, vous m'envoyez un message sur Insta. Si je réponds pas, vous me harcelez parce que j'ai peut-être pas vu votre message et que j'étais au travail aussi. Mais n'hésitez pas, dès qu'il y a des questions sur le matériel, j'aime bien partager ce avec quoi je travaille, comment je travaille. J'ai aucun souci à aborder tous ces sujets-là, quoi, sans aucun problème.
Trop bien, trop bien. Effectivement, en plus, tous les deux, on est rentré en contact sur Instagram, donc c'est la preuve que tu réponds.
Ouais.
Tu parlais de cette association-là, donc PFA, vous êtes combien dedans comme
On est 22. Moi, je suis. J'ai été président pendant 6 ans et j'ai laissé ma place à Rémi, qui est président maintenant. Donc, je suis juste vice-président. Et on est 22. On va dire qu'on a un noyau dur de 8-9 personnes qui sont très actives parce que, bon, ben, dans les associations, vous savez un peu comment ça marche. Il y a des gens qui sont plus actifs que d'autres. Mais on est quand même 22. On se parle souvent. On échange souvent sur les projets. Ce qui fait que quand on nous a appelé un sur un projet et qu'on n'était pas OK sur le tarif, on le dit à tout le monde. Pour que tout le monde puisse dire non, ça, le tarif n'est pas correct et on fait front. Et je pense que c'est comme ça qu'on changera les mentalités. D'ailleurs. Donc, l'association, elle sert vraiment à ça parce que c'est un métier où on est extrêmement seul, photographe plateau. C'est-à-dire qu'il faut comprendre un truc, c'est que quand on tourne un film, tous les gens travaillent ensemble et le photographe plateau, il n'y a personne qui lui dit ce qu'il a à faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il touche une session de droit. Hein. Parce qu'il n'y a pas un réalisateur. Le réalisateur, en fait, il dit à tout le monde, au maquilleur, au coiffeur, au décorateur, au chef opérateur, c'est lui qui manœuvre tout ça. Et le photographe plateau, on lui fait confiance. Voilà, à part une ou deux fois, on peut me dire est-ce que tu peux faire ça ou ça, mais c'est quand même extrêmement rare. Et c'est pour ça qu'on touche les sessions droits. Alors, c'est assez étrange, c'est un sujet assez intéressant parce qu'il y a des directeurs de production qui ne veulent pas nous payer des sessions droits parce qu'ils disent on est les seuls sur le plateau avec le réalisateur à toucher des sessions de droits. Le chef opérateur, le maquilleur, le coiffeur, effectivement, n'en touche pas. Et d'ailleurs, c'est un peu, des fois, on pourrait se dire, parce que pour avoir fait beaucoup de plateaux de cinéma, des fois, le réalisateur, il ne sait pas du tout ce qu'il veut. Et c'est ces gens-là qui vont prendre des décisions. Mais effectivement, ça reste toujours le réalisateur qui leur dit ce qu'il a à faire. Moi, il n'y a personne qui me dit, si je fais de la couleur, du noir et blanc, si je travaille à quelle ouverture, avec quelle focale. Ben, le réalisateur, il valide tous les plans, en fait. Il dit, là, la focale, ça ne me convient pas, je veux un 35, je veux un 50. Donc ça, c'est important aussi à faire comprendre à des photographes, parce que moi, j'ai des photographes qui n'ont jamais touché de session de droit, parce que les directeurs de production leur ont dit, non, non, tu n'y as pas droit. Et ils ont dit, bon, ok, je vous fais confiance. Ben, il y a plein d'exemples en plus que vous pouvez donner, hein, parce que souvent, les directeurs de prod qui disent ça, ils disent, oui, c'est pas toi qui as fait les costumes, c'est pas toi qui as fait la lumière, c'est pas toi qui as fait la coiffure. Moi, souvent, je leur dis, écoute, c'est pas très compliqué. On va prendre PSG, on va prendre Mbappé, le photographe de l'équipe qui photographie Mbappé, c'est pas lui qui a fait le maillot du PSG, c'est pas lui qui a fait la lumière du stade, c'est pas lui qui a tondu la pelouse, c'est pas lui qui a coiffé Mbappé, et pourtant, étrangement, c'est bizarre. Hein. C'est pas lui qui lui dit quand il doit marquer, donc c'est pas lui qui l'a dirigé, et pourtant, il touche une session de droit. C'est pareil, en fait. C'est exactement la même chose. Il y a un acte de création. Mais souvent, je pense que ces gens qui disent ça, ils savent pas ce que c'est que, je pense, faire des photos, ils ont dans l'esprit de dire il a un super appareil photo, donc il fait des super photos, c'est très facile. Donc voilà. Mais on a toujours les bons arguments pour répondre à ces gens-là de manière bienveillante et positive.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, tu l'as dit, de faire des économies ou... Parce qu'un producteur, la finalité du producteur, c'est de récupérer l'argent qui reste une fois que tout le monde a été payé. Donc, alors moi, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience. J'ai eu quelques expériences avec des producteurs télé. À chaque fois, c'était extrêmement compliqué et il faut vraiment être très patient parce que tu sens que dans tous les cas, ils essaient de racler un maximum. Donc,
Malheureusement, effectivement, je pense qu'en 15 ans de carrière, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, écoute, je vais te mettre bien, n'hésite pas, je vais même te payer un peu plus. C'est jamais arrivé en 15 ans. En 15 ans, par contre, ce qu'on me dit quasiment à chaque projet, oulala, oui, est-ce que tu peux faire un effort sur ça? Ça va être compliqué, ça va être compliqué. C'est le même discours à chaque fois. C'est un peu fatigant, j'avoue, surtout quand on fait des films à 65 millions d'euros, 25 millions d'euros, 8 millions d'euros. On se dit, bon, les gars, ouais, il n'y a peut-être pas d'argent, mais bon. C'est qu'en fait, je pense que le problème là-dedans, c'est qu'il n'y a aucune valorisation de notre métier. C'est un peu triste à dire, quoi, mais je pense qu'ils s'en foutent complètement, souvent. Et à la fois, je peux les comprendre parce qu'effectivement, ils ont tellement de problèmes et de soucis. Faire un film, c'est une aventure incroyable, mais des fois, je pense que les producteurs, ils doivent avoir des cheveux blancs bien avant moi parce qu'effectivement, c'est très compliqué, quoi. Donc, je ne leur jette pas la pierre. Mais je pense que des fois, il faudrait qu'ils se rendent compte un petit peu que avoir un bon photographe plateau, c'est important. Et d'ailleurs, je pense que dans ce métier ne pourra évoluer que si on a de très, très bons photographes. Et des fois, il y a des photographes qui, je pense, ne sont pas assez à la hauteur de certains projets. Donc, ça défavorise ce métier parce qu'effectivement, le producteur, il peut dire, mais attends, je vois le travail du photographe, je vois les photogrammes, donc les copies écran de la caméra. Qu'est-ce qu'il m'amène le photographe en plus? À part quelques photos backstage, mais la plupart des producteurs se foutent des photos backstage. Donc, on a besoin aujourd'hui, effectivement, d'un vrai acte de création, de photographes qui se remettent en question, des photographes qui vont bosser avec de l'IA, qui utilisent du matériel aussi différent. Là, j'ai un ami à moi qui vient, par exemple, Julien Panier, qui vient s'acheter un moyen format. On pourrait se dire, mais un moyen format pour des photos qui vont passer dans Télé-Séjour ou à la télévision derrière de la housse, pourquoi? Mais en fait, il sort des images qui sont quand même assez dingues. Donc, voilà, je pense qu'il faut se remettre en question et je pense qu'en se remettant en question et en amenant une vraie plus-value au film, on fera comprendre les choses. Moi, souvent, je donne des exemples, hein, je dis, regardez ce que font les Peaky Blinders. Regardez les visuels des Peaky Blinders. Le photographe plateau, il est là tous les jours. Alors oui, le tournage est chambé, mais il a quand même effectivement beaucoup, beaucoup de matière. Là où moi, c'est difficile de lutter. Je vous donne un exemple sur OSS 3. Le dernier OSS qui est sorti, il y avait 65 jours, je crois, de tournage. Je suis venu que 8 jours. Et les 8 jours, c'était les 8 jours à Paris. Je ne suis pas allé en Afrique. Donc, vous imaginez bien la pauvreté des photos qui vont sortir. On ne peut pas rivaliser avec Tom Cruise qui, lui, inonde de photos plus belles les unes que les autres. On ne peut pas rivaliser avec Tarantino qui a un super photographe plateau qui est là tous les jours sur plateau. Donc, à un moment donné, il faut qu'on en prenne conscience, il faut que ces gens-là prennent conscience qu'on est dans un contexte de concurrence et qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas compris que le nerf de la guerre, c'est la communication, bah, ils n'ont rien compris, je pense, parce que bah, même Tom Cruise, quand il fait un film qu'on pense qu'il va marcher, il fait le tour du monde pour aller le présenter partout et il joue le jeu, quoi.
C'est bien.
Donc, si je fais un parallèle juste avec un film sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas longtemps, Astérix Obélix, ils ont fait deux avant-premières en France, une à Paris, une à Marseille. Bon, Tom Cruise, il est venu dans plein de pays pour faire Mission Impossible en même moment, quoi. Non, c'était pas Mission, c'était Top Gun 2, ouais, qui est sorti quasiment pas loin. Donc voilà, en fait, je veux dire, on prend le poids et la mesure des choses, quoi. Mais je veux dire que des fois, je pense qu'on ne met pas tout de notre côté pour que des films peuvent fonctionner. Et moi, je milite pour qu'il y ait des expos dans les cinémas, par exemple, avec les photos de plateau. Je prends un exemple, UGC Léal. C'est les mêmes photos depuis 15 ans. Moi, c'est un cinéma dans lequel je vais beaucoup. À chaque fois que je passe devant ces photos, je me dis, mais à quoi elles servent, quoi? On n'est pas au musée, quoi. On n'est pas au musée. On n'est pas en train de regarder la Joconde, quoi. On est en train d'être dans un lieu de culture dans lequel les films changent chaque semaine. Pourquoi est-ce que tous les mois, on n'aurait pas des expos différentes? Ça ferait 12 expos dans l'année, avec dans le mois, effectivement, des photos des films qui vont être à l'affiche. On peut même imaginer des QR codes où les gens pourraient acheter des photos comme chez Yellow Corner. Donc, il y a des choses à réinventer. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le cinéma, il y a quand même une espèce d'immobilisme. Moi, souvent, j'ai envie de dire, dans les cinémas, ils ont fait quelques changements. Pathé, fait des gros changements sur ses salles. Il y a des écrans numériques, il y a plein de choses. Mais des fois, on se dit, on a l'impression que le paquet de M&M, c'est la publicité est plus importante que la culture. Donc, je sais que c'est important pour eux et qu'ils vivent grâce à ça, mais je pense que dans les cinémas, par moment, on pourrait remettre de la culture par des making-of, chose que font les plateformes. Hein. Disney+ ont été les premiers à vraiment réinventer le format du making-of qui n'a plus de sens dans les DVD puisque les DVD ne se vendent plus, donc le making-of de 45 minutes, mais d'autres formes de making-of. Et puis moi, j'ai un souvenir quand j'étais gamin de photos. Quand j'allais au cinéma, il y avait des photos à l'entrée du cinéma, quoi. J'adorais les voir. Pourquoi ça n'existe plus en fait?
Non, mais
On
rien que
pourrait
sur.
l'imaginer sur des écrans numériques même, je veux dire.
Clair,
Enfin, on pourrait imaginer plein de choses.
rien que sur YouTube, rien que sur les réseaux sociaux, ça aurait tout à fait du sens d'avoir des making-of. C'est justement le
Ouais.
parfait, le réseau social parfait pour. Enfin, le médium parfait pour avoir du making-of, quoi.
Ouais, je pense.
C'est marrant parce que la semaine dernière, je suis allé voir Dali dans un petit
Ah
cinéma
oui.
où il passait nulle part, en fait, en bon film d'auteur. Et du coup, je me suis retrouvé dans une petite salle, avec une seule salle d'ailleurs, dans une petite ville à côté de chez moi. Et le premier truc qui m'a choqué en rentrant dans le ciné, c'était de voir une machine, une vieille caméra, tu vois, qui servait de déco, qui était là en déco. Et une bibliothèque avec quelques bouquins sur l'art du cinéma. Et c'est con, mais en fait, t'as raison. C'est compliqué de véhiculer la culture si on n'utilise pas des moyens concrets, notamment à commencer par des simples tirages photos
Ouais.
pour découvrir.
Ben, un bon exemple, c'est les MK2, par exemple. Le MK2 Bibliothèque, je trouve, est très intéressant. C'est un cinéma dans lequel vous pouvez acheter des livres. Vous pouvez bouquiner. Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de cinéma. Si on veut faire, si on veut redorer le blason un petit peu du cinéma, il faut qu'on fasse un peu attention parce que moi, ma génération, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va au cinéma. Mais moi, je pose souvent la question à des jeunes de 20 ans, de 18 ans, de 17 ans, de 16 ans, quel film t'as été allé voir dernièrement au cinéma? Je veux pas être pessimiste, mais dans 80% des cas, c'est mais moi je vais pas au cinéma. Comment est-ce que ces jeunes on les intéresse qui regardent eux des films sur des plateformes et sur des téléphones portables?
Ouais.
Donc moi ça me fait un peu flipper. Je me dis mais dans 20 ans qu'est-ce qui restera dans 20 ans? Parce que c'est la future génération qui doit aller au cinéma en fait et qui doit faire un renouvellement. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à les intéresser. On est en train de dire qu'il faut qu'on se remette en question. Là, il y a eu tout un truc après le Covid, quand il y a eu un gros stress parce que les gens n'allaient plus au cinéma. Là, on a l'impression que les gens reviennent au cinéma et que c'est bon, on va rien changer, quoi. Moi, je compare souvent ça à votre magasin préféré de vêtements, quoi. Imaginez si on ne changeait rien, quoi. Il n'y avait pas de saison et puis c'était tout le temps les mêmes vêtements, quoi. Ben, vous n'y allez plus au bout d'un moment. Donc là, dans les cinémas, il y a effectivement les films qui changent chaque semaine, mais le lieu en lui-même. Oui, on va améliorer des salles, on va faire quelques petits travaux, donc il y a des choses quand même qui changent. Mais je pense qu'on peut aller plus loin en fait. Et aujourd'hui, c'est difficile, même j'en ai souvent discuté avec des directeurs de cinéma, par exemple UGC à Bordeaux, il me dit oui, je suis tenu par mon directeur national et il ne veut pas changer les photos, c'est les mêmes photos dans tous les UGC, quoi. J'ai envie de lui dire quand même, vous ne sentez pas que c'est un peu ridicule. Là, l'UGC de Bordeaux, où je vais aussi souvent, c'est les mêmes photos depuis 10 ans, quoi. Ben en fait, les gens, ils les regardent même plus, les habitués, en fait. Donc,
Ouais,
donc
c'est clair.
posez-vous des bonnes questions. Et c'est pas compliqué à faire. Il faut arrêter de croire que, oui, ça va coûter de l'argent. Ben oui, comme dans un magasin, quand il refait sa déco, il met de l'argent, en fait. C'est de l'investissement. Comme quand vous refaites les salles, comme quand vous refaites les sièges. À un moment donné, il faut effectivement mettre l'argent au bon endroit, je pense. Et on a des choses à faire, en tout cas, je pense.
C'est clair. Alors, c'est marrant que je t'écoute et tu faisais un parallèle avec la photo de mariage et quand on déroule le truc, on se rend compte que c'est la même problématique pour un photographe de mariage, un photographe de plateau, à savoir que le budget photo, c'est un peu le dernier. Alors que, au final, je sais pas, tu prends un couple qui va dépenser je sais pas, 10, 15 000 euros dans un mariage pour la restauration, l'hôtel, la robe de mariée, enfin tout ce qu'il faut pour que le mariage soit fait. Et quand tu leur dis de rajouter 1 000 balles ou 1 500 balles, dans ce photographe, on va dire ben, c'est trop cher. Pourtant, c'est toute cette journée qui a été complètement éphémère, même si tu peux t'en rappeler toute ta vie. Mais bon, à un moment donné, la mémoire est telle que ben, une bonne photo, ça sert quand même à quelque chose. Et c'est le photographe qui donne de la valeur sur le long terme à tout ce investissement de départ, quoi. Et alors, du coup, la question que je voulais te poser, c'est, et tu as déjà commencé à répondre, et je trouve que c'est vachement intéressant parce que t'es pas que dans le côté. Il faut que ça change au niveau du système et qu'il faut faire de la pédagogie auprès des producteurs, etc. Mais c'est une démarche aussi qui est très personnelle parce qu'un photographe de mariage, un de ses arguments marketing, pour le coup, et vraiment, il faut oser le mot marketing, c'est de dire je vais rendre immortel ce moment pour toi. Alors toi, quand tu es face à un producteur qui a son enveloppe, etc., tu as peut-être un peu moins de marge de manœuvre, mais tu l'as dit, il y a des choses à faire, des choses à proposer. Est-ce que tu peux nous proposer peut-être des pistes concrètes de qui ont fonctionné peut-être pour toi, pour les gens de la PFA, ou tu vois, ce genre de choses qui pour avoir des arguments de marketing sur ce métier-là?
Moi, souvent, les arguments que j'avance, c'est vraiment une plus-value au film. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment réfléchir la photographie en termes de communication. Par exemple, un metteur en scène ne réfléchit jamais sur de la verticalité. Il réfléchit beaucoup sur tout un plan horizontal parce que le film est tourné à l'horizontale. Donc moi, sur certains décors, il y a des décors qui sont intéressants sur de la verticalité. Donc c'est là où je vais aller chercher de la verticalité qui peut être intéressant pour une story Instagram, par exemple. Donc moi, souvent, ce que j'annonce aux producteurs, c'est de dire que moi, je réfléchis en termes de promotion et en termes de comment est-ce que les images, elles vont être vues. Donc moi, je ne suis pas là pour réfléchir au montage du film. Je suis pas, donc, je ne réfléchis pas comme le metteur en scène. C'est vraiment ça qu'il faut leur faire comprendre. Et puis aussi, par exemple, sur les photos backstage, je vais essayer de montrer au grand public comment ce film a été fabriqué, comment est-ce que, quels moyens on a mis, créer des vocations aussi chez les gens. Donc, toutes ces choses-là sont des choses qui amène quelque chose au film, qui amène une plus-value au film. Là, surtout sur un tournage comme Zorro, vous imaginez bien, on est dans des décors de dingue. Donc, quand les photos, elles vont sortir, je pense que ça fera rêver. On est dans des décors de western. Donc, souvent, c'est les arguments que j'annonce, quoi. Et je dis parce que forcément, leur argument principal, c'est de dire, on prendra des photogrammes. Et de dire, attention, le photogramme est aussi, c'est quelque chose qui est limité. C'est-à-dire que le shutter de la caméra travaille à une certaine vitesse. Dès qu'il va y avoir des scènes d'action, vous ne pourrez pas prendre de photogrammes. Donc, moi, il y avait beaucoup de scènes d'action, beaucoup de scènes à cheval, beaucoup d'escrime. Donc, j'ai pu vraiment sortir des images que, quand on voit les photogrammes, ils ne peuvent rien sortir de ce que moi, j'ai pu faire. Et d'ailleurs, je demande toujours à recevoir les photogrammes pour comparer tout le temps mon travail aux photogrammes. Donc, voilà, c'est tous les arguments que j'avance en disant, voilà, c'est une autre façon, c'est une autre vision, et il faut le faire comprendre, surtout quand on a des producteurs qui n'ont pas de vraie culture photographique. Malheureusement, ça arrive. Donc, il faut leur faire comprendre tout ça.
D'accord. Bah, c'est super, c'est bon conseil. Et alors, je me posais la question, tu parlais des plateformes, et c'est vrai que l'arrivée des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, et la guerre qu'elles se mènent entre elles avec Disney+, etc., est-ce que c'est une bonne chose pour le métier de photographe de plateau ou pas forcément?
J'ai tendance à dire que oui et non. Moi, je ne suis pas pour qu'on se tire la bourre comme ça, mais je pense que plus ça amènera de projets, plus il faudra les développer et plus il faudra essayer de montrer ces projets-là. Donc, on va dire plus il faudra de l'argument de communication. Donc, plus il faudra de photographes plateau, parce que plus ils vont en faire, bah, on n'est pas beaucoup, hein, comme vous l'avez compris. Donc, moi, je pense que ça peut développer un métier. Après, il faut qu'il y ait une vraie volonté d'avoir des photos. Et aujourd'hui, si je suis très honnête avec vous, les plateformes sont plutôt sur des modes économiques où ils recherchent aussi à faire des économies, malheureusement. Donc, on est en train d'observer en ce moment d'avoir de moins en moins de jours de présence plateau sur des projets pour des plateformes. Donc, attention, et encore une fois, ne nous laissons pas faire et essayer d'avancer les bons arguments pour avoir des photographes de qualité. Des fois, ils ont tendance à prendre des tout jeunes photographes qui n'y connaissent rien en leur disant « on est super sympa, on te laisse ta chance ». Ils les payent mal et ils n'ont pas forcément des photos de qualité, mais des fois, ils s'en foutent un petit peu. Donc, remettons un petit peu du bon sens là-dedans. Moi, je suis super ouvert pour qu'il y ait des jeunes qui arrivent. Formons-les, soyons plus nombreux, pourquoi pas. Et puis, s'il y a de plus en plus de projets, tant mieux. J'espère qu'il y aura de plus en plus de travail. Mais pour ça, il faut qu'ils libèrent du budget.
Tu penses qu'il y a combien de photographes de plateau en France, à vue de nez comme ça?
Bon, je pense qu'on doit être à vraiment en vivre et travailler à les 40.
Ah
Pas
ouais.
plus quoi. Ben ouais, parce que c'est un métier qui est quand même assez précaire, donc il y en a qui en font un peu de temps en temps, mais qui en vivent vraiment et qui ne font que ça, on est vraiment très 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 peu quoi. On va pas se mentir. Hein.
Donc vous connaissez tous en plus un microcosme, quoi.
Oui, on se connaît tous, hein. Globalement, on se connaît tous. Ouais.
Et pour revenir sur la question des cessions de droits, parce que moi, quand je vois ton travail et je vois le travail des photographes plateaux, je me dis, avec toutes les reprises en presse, toutes les reprises sur les plateaux de télé, etc., en droit collectif à la Saïf ou à la SCAM, ça doit être plutôt pas mal, non?
Moi, je suis à peu près, je retouche par an à peu près 3 000 euros en cession de droit, ce qui n'est pas énorme. Parce que aussi, une bonne partie de mes photos, en fait, ont été cédées à la production pour toute utilisation. Donc, voilà. Alors, il faut faire attention pour toute utilisation pour parler de ce projet. C'est-à-dire que là, par exemple, demain, quand les photos sortiront de Zoro, ça sera pour parler de Zoro. Si demain, on fait un sujet sur Jean Dujardin, et qui est donc un sujet que sur Jean Dujardin, ben là, il faudra payer une cession de droit, bien évidemment. Et c'est là où la DAGP, moi, je suis affilié à la DAGP, vont toucher des cessions de droit qui me reverseront. Mais globalement, nous, quand on signe effectivement nos contrats, il y a quand même une cession de droit qui est vraiment faite pour le film pendant longtemps d'ailleurs. On est en train de batailler pour essayer d'avoir des contrats avec des durées des fois un peu moins. Pendant très longtemps, la mode, c'était de nous faire signer des contrats jusqu'à nos ayants droit. Donc jusqu'à 70 ans après notre mort. Ce qui est totalement illégal en France, hein, ceci dit, entre nous. Donc des fois, ça me pouvait arriver de signer le contrat, je regardais la personne, je dis, bon là, je le signe, mais si demain, je vous attaque. Le juge dira la première chose, on n'a pas le droit de faire signer ce type de contrat en France. Donc le contrat est caduc. Donc voilà, donc autant faire les choses correctement. Et quand il n'y a pas d'argent, et quand par exemple, j'en ai discuté encore hier avec un jeune photographe, on lui proposait 1500 euros pour 15 jours de présence plateau, donc 100 euros par jour en session de droit. J'ai dit, écoute, tu peux leur dire, moi, il n'y a pas de problème pour 1500 euros, mais je vais donc vous livrer que 15 photos ou 20 photos et que pour 5 ans. Pas jusqu'à 70 ans après ma mort, les gars. Faut pas rêver, quoi. Donc, moi, souvent, j'ai envie de dire, moi, je suis pas là pour vous racketter. Je suis pas là pour plomber le budget. Et ceci dit, entre parenthèses, si je vous demande 1000 euros de plus sur un budget de 15 millions d'euros, on va pas se mentir, c'est pas moi qui vais vous faire du mal. Et deuxièmement, j'ironise un petit peu, j'aime bien remettre les choses à leur place. Et deuxièmement, je dis, en fait, vous en avez pour votre argent. Quand vous allez dans votre magasin préféré, que vous avez 100 euros en poche, ben vous ressortez pas pour 300 euros en fait de choses. Donc, juste si vous avez 1500 euros, vous en aurez pour votre argent, pas de problème. Mais dans le, bon, il faut rester correct en fait. Voilà. Donc, sinon, il faut que vous allez chercher un peu plus d'argent si vous en voulez plus, quoi. Je veux dire,
Alors, du
voilà.
temps que tu parles de la DAGP, tu parles des droits, de tous les droits, ou tu parles aussi des droits collectifs, tu sais, des droits, en fait, même quand tu as déjà vendu tu as cédé déjà les droits, même pour de l'argent, tu as le droit de
Ouais.
retoucher ta passe dans la presse, à la télé, etc., normalement.
Ouais, je pense qu'il y a aussi ça dedans, ouais. Ils mettent tout dedans, ouais. C'est avec tout ça, ouais.
Effectivement, c'est pas beaucoup, tu vois. Je pensais que c'était beaucoup plus.
Non.
Ok.
Moi, en tout cas, c'est à peu près ce que je touche par entre 3 et 4 000 euros max. J'ai jamais touché plus.
Ok. Alors, parlons un peu de. Tu as commencé à en parler un peu d'IA. Moi, c'est un
Ouais.
topic qui me passionne depuis quelques temps là, parce que je trouve ça incroyable et je vois un peu les possibilités dans plein de domaines différents. Toi, tu penses que ça aura. Est-ce que ça va un peu plus aggraver la situation pour les photographes de plateau ou au contraire ou pas forcément?
Moi, je pense que oui, vu ce qui se passe aujourd'hui et les modes économiques dans lesquels on est, et ce qu'ils vont pouvoir créer, parce qu'on n'en est qu'au début, hein, et déjà quand on voit ce qu'on peut faire, c'est assez fou en fait. Donc je me dis, oui, donc je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de se former, parce que par contre, ce qu'on pourrait proposer, c'est, je pense que derrière l'IA, il faudra quelqu'un de très spécialisé. Donc si vous avez un très bon photographe plateau, peut-être qu'il va pouvoir vous faire votre retouche avec l'IA. Mais oui, effectivement, ça nous amène des perspectives qui sont dingues. Moi, je l'utilise là en ce moment et j'avoue que j'arrive à faire des trucs de fou, quoi. Même des fois où je me disais, ça m'arrive même là de faire des photos en me disant, c'est pas grave, si j'ai la caméra devant une personne, un figurant, il va le recréer, quoi. Alors, bon, il y a ses limites, on sent que pour les mains et les pieds, c'est pas encore ça, hein, clairement. Mais j'ai réussi à sauver des photos là où avant, la photo, je ne l'aurais pas gardée, en fait. Donc, ouais, c'est assez fou. Sur une photo aussi, je me suis amusé, j'avais pas une grande hauteur sous plafond à recréer une hauteur sous plafond. Donc oui, bien évidemment, je pense qu'il faut se mettre dedans parce que c'est l'avenir et que dans toute nouvelle technologie, à chaque fois, on en a peur. Moi, je me rappelle, hein, si on se remet dans le contexte, moi, ça fait 13 ans que je suis ambassadeur pour Sony. Au tout début où Sony a commencé avec les hybrides, je me rappelle très bien faire les salons de la photo, faire mon petit speech sur le stand de Sony avec les deux en face Canon et Nikon qui regardaient en disant non mais l'hybride ça marchera jamais, il y aura toujours que des réflexes. Moi qui disais ben non, je trouve que ça a plein d'avantages, le silence, la compacité. Pour l'instant effectivement les viseurs sont pas au point, mais j'en suis sûr qu'on va trouver des solutions. Donc voilà, donc Donc, je pense que, comme dans toute évolution, il y a des gens qui ont peur et il y a des gens qui s'y intéressent. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les photographes devraient s'y intéresser parce qu'on va devoir composer avec ça.
Ouais, c'est clair. C'est clair. D'autant plus que l'IA, enfin, tu vois, moi je vois un effet un peu ricochet qui pourrait être positif pour le métier de photographe de plateau, c'est que l'IA va faire aussi va permettre une économie de coûts incroyable dans les équipes de production. Parce que là où tu avais besoin de X graphistes, X dessinateurs, monteurs, etc., avec une IA, tu vas pouvoir couper quelque part. Alors, c'est sûr que, encore une fois, c'est chiant pour ceux qui vont être remplacés par de l'IA. Tout comme il y a des gens qui, à l'époque, étaient payés dans les rédactions de journaux pour découper, ou des monteurs vidéo qui étaient là pour découper avec des ciseaux des bandes de films pour les scotcher, etc. Et quand on a balancé Premiere Pro, bah forcément, ça fait un peu bizarre. Mais par contre, en termes de productivité, en termes de gain de temps sur les, enfin, c'est énorme. Et du coup, si cet argent est relocalisé dans un but marketing pour faire encore plus de ventes sur le film et du coup, c'est de l'image. C'est peut-être plutôt pas mal pour le photographe.
Oui, et puis je pense qu'aujourd'hui, tous les métiers, effectivement, moi j'ai un ami à moi qui fait de la voix off. Oui, bah, il va faire autre chose. Hein. Très clairement, il m'a dit là, la voix off, c'est en train de mourir. On n'a plus du tout besoin de moi, quoi, très clairement. Donc, mais en fait, il faut essayer de voir les évolutions des fois de manière aussi positive et se dire, ben oui, il faut qu'on change de métier. Peut-être qu'il va falloir que nos générations, c'est pas comme la génération de nos parents, en fait, avec ces technologies qui évoluent à une vitesse grand V, il va falloir qu'on change de métier plusieurs fois. Moi, j'ai déjà changé de métier. Hein. J'ai été prof de plongée avant et prof de surf. Je me retrouve photographe plateau, ça je trouve, après je ferai peut-être autre chose en fait. Il faut toujours essayer de le voir d'une manière positive, se dire, bah oui, il y a des emplois qui vont être perdus à cause de ça, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont aussi être gagnés. Donc il faut bah, se remettre en question et il faut essayer de se dire, bah, peut-être qu'il y a des choses qui vont devoir changer et évoluer.
Ouais, carrément. C'est un bon mindset. En parlant de ça, parce que tu fais un métier qui peut être considéré comme beaucoup comme un métier de rêve. Au final, tu vas être sur un. Le simple fait d'être sur un plateau de télé, tu vois, tu parlais de Jean Dujardin, d'Espagne, pour le prochain Zorro. T'as des gens qui sont fans du personnage qui seraient qui tueraient pour être à ta place, pour faire des photos gratuitement, et qui seraient fiers de le faire. Quand tu es, et ça fait, c'est le parallèle pour plein d'autres métiers, photographe, je sais pas, pour couvrir le festival de Cannes ou dans la presse, etc. Comment tu trouves le juste milieu, toi, en tant que photographe, pour être à la fois dans ce rôle de professionnel qui est payé, qui doit négocier ses journées de travail, etc. Être un peu détaché aussi du truc, et en même temps, kiffer ce que tu fais, quoi, tout simplement, pour dire. Et si tu te lèves le matin, j'imagine que tu as quand même le sourire aux lèvres pour faire ce genre de truc. Tu vois, comment tu trouves le juste milieu?
Bah, moi, j'ai toujours aimé faire de la photographie, donc c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire un métier que j'aime. Donc, aller sur un plateau de cinéma, pour moi, c'est effectivement que du bonheur. Les journées changent chaque jour. Il n'y a pas de train-train quotidien, donc j'ai la chance de faire effectivement un métier qui me plaît. Après, bon, oui, je travaille avec des gens très connus. Ça, c'est jamais quelque chose qui m'a. J'ai jamais eu le côté très star system, moi, en fait. Donc, et je pense que si aussi j'ai quand même beaucoup et assez vite travaillé, c'est que je les ai toujours traités d'une manière très normale. J'ai jamais tiré des pompes, j'ai jamais fait de selfie, par exemple, avec eux. Ça m'intéresse pas, en fait, quoi, parce que des fois, je les admire beaucoup et je les respecte beaucoup parce que je trouve que c'est un métier très, très difficile, être acteur de cinéma ou être actrice. Surtout la notoriété, je trouve que c'est quelque chose. Moi qui au début rêvais d'être acteur, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'aurais pu gérer parce que c'est très compliqué, c'est très invasif en fait. Et moi j'aime beaucoup, moi je suis quelqu'un de très discret, j'aime avoir ma discrétion et qu'on me laisse un peu tranquille, donc c'est vrai que je les admire beaucoup par rapport à ça. Mais moi effectivement j'ai toujours été très, voilà, très normal. Moi je trouve que ma sœur elle est pompier, des fois je suis plus admiratif de ce que fait ma sœur qui va être capable d'accoucher une femme. Chez elle, parce qu'elle est arrivée et que le bébé était en train de sortir, il faut qu'on relativise ce qu'on fait, quoi. On fait de l'amusement, quoi. On est là pour distraire les gens, quoi. On n'est pas en train de sauver des vies, quoi. Voilà. Surtout vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a la chance de faire effectivement de la distraction et du métier, même si des fois le cinéma joue un rôle important au niveau social, hein. Quand j'ai travaillé sur le film Je verrai toujours au visage, je trouve que c'est un film utile pour la société, très clairement. Le film de Jeanne Herry, c'est un film qui est très juste et qui a le mérite de soulever beaucoup de problématiques aujourd'hui. Mais voilà, moi j'ai toujours eu beaucoup de recul par rapport à tout ça. J'ai jamais été dans le star system. Moi, dès que je peux partir de Paris, maintenant j'habite plus Paris en plus, je suis chez moi à Bordeaux, au calme, avec mes amis qui ne travaillent pas dans le cinéma et avec mes potes surfeurs. Donc je suis bien, bien loin de ce milieu. Les soirées branchées, tout ça, c'est pas mon délire. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment une distance par rapport à ça. Après, oui, je suis devenu plutôt proche de certains acteurs parce qu'on travaille souvent ensemble et on aime travailler ensemble. Et ça, c'est plutôt cool cette relation, mais c'est une relation de travail qui est plutôt sympathique. Mais voilà comment moi je vois les choses. Et c'est important de garder ça aussi, quoi, parce que il faut avoir les pieds sur terre, quoi. Hein, faut. Voilà, mais même des fois, moi, je vois des trucs assez drôles, quoi. J'ai vu dernièrement, ça m'a fait marrer parce que ça existe aussi, même chez les stars. J'ai vu celle qui présente L'amour est dans le pré, Karine Le Marchand, donc
Ouais.
cette présentatrice télé. Je l'ai vue, elle était, je pense, ça devait être au César avec Brad Pitt, et on la voit, elle est au photocall, et à un moment donné, elle sort son téléphone, elle dit, est-ce qu'on peut faire un selfie? C'était trop mignon, quoi. Je veux dire, donc il faut pas croire que même des fois chez les stars, il peut y avoir un petit peu ce truc-là. Bon, moi, c'est pas mon délire. J'irai jamais faire des selfies avec quelqu'un. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt mignon et plutôt sympathique. Après, des fois, et d'ailleurs, il y a un film qui va sortir bientôt avec Guillaume Canet, hors saison, le dernier film de Stéphane Brisé. Allez le voir parce que du coup, c'est assez marrant. Guillaume Canet joue le rôle d'un acteur et il va pour se reposer. Il fait une cure thermale et on voit tout le côté, des fois, du métier qui est difficile. Il est là pour se reposer et il est en train d'être. On lui fait un masque, donc il n'est pas dans une situation très simple. C'est dans la bande-annonce, je crois d'ailleurs. Et il y a la fille qui dit, est-ce que je peux faire un selfie avec vous? On sent que c'est quand même pas le moment, quoi, de lui demander un selfie, quoi. Donc des fois, moi j'ai pu assister à des trucs où on se dit, bon, les gens vont un peu trop loin, quoi, quand même, quoi. Il faut essayer de respecter un petit peu les acteurs, quoi.
C'est marrant, j'ai l'impression que c'est en train de venir à la mode. En plus, il y a la série de 10% sur laquelle tu as bossé, si je ne me
Oui.
trompe pas, et qui parle aussi beaucoup de ça, sur le côté la vie des acteurs. Tu as des acteurs connus, d'autres moins connus, et puis quand ils se retrouvent sur le même niveau. Je pense aussi au film, un des derniers films là, de Nicolas Cage, qui tourne justement autour de sa vie acteur, et il plein d'autodérision, où il est un peu en mode ralenti, et puis c'est assez marrant. Hein. Justement, alors, tu disais que toi, t'es pas trop jet set soirée, donc je vais rayer toutes les questions qui concernent la cocaïne et tout genre de trucs.
Non, moi je suis plutôt ça, je bois pas, je fume pas, donc je suis pas très drôle.
D'accord.
Enfin, si, je suis très drôle, mais c'est une façon de rigoler. Mais c'est assez marrant parce que je me suis retrouvé à des soirées où, quand je dis je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, et là, ils disent, oh là, c'est pas très drôle. Je fais, bah, pourtant, si je fais le festival du film d'année, le festival du film d'Angoulême, je pense que je suis un des seuls à danser et à chanter au micro, au karaoké, quoi, en étant en buvant du Coca-Cola. Donc j'ai pas besoin de ça en fait. Et puis j'ai jamais aimé fumer, j'ai essayé, j'ai pas aimé. L'alcool, j'ai essayé, pourtant j'ai un père qui a beaucoup fait d'œnologie, j'aime pas l'alcool. La drogue, j'ai essayé, j'ai pas aimé. Donc voilà, c'est pas mon délire en fait. Donc c'est vrai que. Voilà, et puis les soirées, je suis pas très. Moi, j'aime bien me lever tôt pour aller surfer le matin, donc passer du temps avec des amis. Voilà, je suis plutôt très classique, on va dire, quoi. Hein. Je suis pas dans un délire, aller au théâtre, aller voir des pièces, aller au cinéma le soir, voilà, sortir un petit peu, boire des verres de temps en temps, quoi. Mais c'est vrai que bon, je suis pas très discothèque, on va dire, jusqu'à 6h du mat, c'est pas trop mon truc.
Alors, est-ce que c'est toi qui es un peu dans les coulisses un peu du showbiz aussi, quand même? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez. Est-ce que c'est le cliché qu'on imagine, ou est-ce qu'au contraire, justement, les gens sont un peu comme toi aussi, globalement, et ne sont pas forcément dans l'abus
Non, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes. Il y a bien évidemment des gens qui se droguent, des gens qui boivent, on les connaît, hein, on les voit. Mais comme dans tous les milieux, je pense, il n'y en a pas forcément, peut-être qu'il y en a peut-être un tout petit peu plus, parce qu'il y a beaucoup, il peut y avoir pas mal de gens névrosés des fois pour faire ce métier. Mais globalement, si je suis très réaliste, la plupart des gens sont là pour travailler. En fait, faire un film, c'est très compliqué, en fait. C'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc globalement, donc, c'est quand même très sérieux, hein, on va pas se mentir. On ne fait pas la fête tous les soirs. Alors oui, quand on part en tournage, c'est un peu une petite colonie. On est tous ensemble. On est là, par exemple. On est tous à Almeria dans le même hôtel. Donc on se retrouve, on est tous ensemble. Mais ça reste quand même très travailleur. Là, Jean Dujardin, hier, il a répété son texte. Il est en week-end. Là, aujourd'hui, il a fait des répétitions tout cet après-midi. Il n'était pas en week-end, en fait, quoi. Parce qu'on a une très grosse scène mercredi-jeudi. Et Jean est vraiment un acteur, je trouve, qui est extrêmement travailleur et très sérieux. Donc non, c'est pas des fois ce qu'on s'imagine, quoi, hein. C'est pas, on fait pas la fête 24-24. Voilà, ça arrive de temps en temps, mais globalement, non, c'est quand même assez sérieux. Et puis, il faut comprendre qu'une journée de tournage, ça coûte très cher. Donc, bon, on joue pas trop avec ça, quoi, hein.
Ouais. C'est qui ton acteur préféré?
Moi, c'est beaucoup d'acteurs étrangers, souvent. Moi, j'ai une passion pour Brad Pitt, pour Johnny Depp, pour DiCaprio, pour les acteurs, en tout cas étrangers, que je trouve qui arrivent toujours à se renouveler, en fait, de film en film. J'aime beaucoup les choix qu'ils ont. Et en France, moi, je surkiffe Jean Dujardin parce que je trouve que c'est un acteur incroyable et que c'est un grand travailleur. Ça peut être aussi Guillaume Canet, que j'aime énormément. Piou Marmaille, François Civil, Pierre Niney. Chez les femmes, il y en a aussi énormément. Nadia Tereskevitch, qui a eu un César l'année dernière pour Rosalie, qui va bientôt sortir. Marion Cotillard, Noémie Merlant. Il y en a tellement, en fait. Isabelle Adjani, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et je trouve que c'est une actrice juste génialissime. Mélanie Laurent, enfin bref. Il y a tellement d'actrices et d'acteurs que je trouve talentueux. La liste serait très très longue, quoi. J'ai eu la chance de bosser avec beaucoup d'entre eux et de les avoir vus en plus au travail. Alors moi qui voulais être acteur au début de ma carrière, c'est vrai que j'ai très vite arrêté parce que j'ai eu la chance de très vite travailler. Mais par exemple avec Jean-Pierre Bacri, Vincent Rothier, que je crois aussi un acteur qu'on voit plus trop malheureusement, mais qui est juste un énorme acteur. Et quand vous vous retrouvez en face de ces acteurs-là, effectivement, vous vous dites, oulala, non, j'ai pas la carrure et j'y arriverai jamais. Et puis j'ai eu la chance que la photographie a marché tout de suite, donc j'ai pas de regrets. Plus la mise en scène peut-être qui m'attire à un moment donné. J'ai réalisé deux courts-métrages, donc peut-être qu'à un moment je partirai sur un long-métrage. Mais même là, j'ai travaillé avec des gens très talentueux, quoi. Quand vous travaillez avec Cédric Clapiche, avec Jeanne Herry, avec Nicolas Bedos, voilà, forcément, vous doutez un petit peu derrière, quoi. Vous vous dites, je vais jamais être à la hauteur de ces gens si talentueux, quoi.
Ah, excellent. Ah, justement, en parlant de ces acteurs, de ces stars, est-ce que au niveau de leur rapport à l'image et de leur rapport avec toi sur le tournage, en 15 ans, est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent? Je te pose cette question parce que pour les photographes de rue, les photographes de mariage, les photographes de presse, on se rend compte que les gens, ils ont un rapport à l'image différent depuis l'arrivée des smartphones, des selfies, des réseaux sociaux, demain peut-être des deepfakes. Et il y a une sorte de méfiance qui s'installe parfois, ou tu vois, un culte de l'image à l'extrême. Comment toi tu vois cette évolution? Est-ce que tu as vu une évolution de gens?
Alors nous, c'est quand même assez différent parce qu'on est dans un endroit qui est très contrôlé. En fait, le plateau de cinéma, c'est un acte de création. Donc moi, ça n'a rien changé pour moi parce qu'au contraire, il y a même peut-être plus de demandes en termes de photos parce que maintenant, les réseaux sociaux se sont développés et que les acteurs ont besoin de communiquer, d'avoir des images de qualité. Donc, une fois qu'on a gagné leur confiance, j'ai aucun souci avec ça, en fait. Au contraire. Mais la chose la plus difficile, c'est effectivement de gagner leur confiance. Une fois qu'on a leur confiance, ils savent qu'on est vraiment là pour eux. Et ça, c'est le plus important, quoi. Vraiment, quand on est sur un plateau de cinéma, on est 40-50 à être au service du réalisateur et des acteurs. Et tout le monde, on est dans le même bateau pour faire un truc chamé. Et on est tous là pour se surpasser pour eux, quoi. Donc, je pense qu'ils ont conscience de tout ça. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça.
D'accord. Ok. Et ouais, je suis aussi je suis ton compte sur Insta et je suis le compte aussi de Jean Dujardin qui repartage régulièrement des photos que tu fais de lui. Et j'imagine que ça doit être super gratifiant de voir son nom comme ça et de voir son travail qui est valorisé.
Bah oui, parce que moi, effectivement, mon travail, c'est essentiellement les acteurs qui le partagent. Moi, j'en partage un petit peu, mais c'est vrai que, on va dire que photographe de plateau de cinéma, j'ai pas autant de succès que des influenceurs qui a. Bon, j'ai quand même 12K, 12 et quelques K. Hein, je suis une petite influenceuse, peut-être. Mais oui, c'est sûr que ça a beaucoup plus d'envergure quand c'est les acteurs qui partagent. Et puis, ça marque aussi la confiance. C'est-à-dire que. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc, ils ont la confiance et ils montrent que pour eux, c'est important de mettre le nom du photographe. Certains l'oublient par moment. Jean, sur ça, après, Jean, c'est un grand travailleur. Il a conscience du métier de chacun, en fait. Que ce soit le figurant, il nous a fait un truc il y a 2 jours. Il a emmené les figurants avec lui, quoi. C'est-à-dire qu'il sentait que la scène, il fallait que les figurants soient un cran au-dessus. Il a amené une énergie sur le plateau pour les amener quelque part. Je me dis, mais voilà, ce gars-là, il est incroyable, quoi. Sur un plateau, il est tout le temps à la recherche, il est tout le temps travailleur. Il a conscience que le figurant, le régisseur, le photographe, c'est que des gens importants qui l'emmènent là où il est aussi, quoi. Et cette humanité-là, elle se voit dans son jeu aussi, je pense. Donc oui, c'est hyper important et c'est gratifiant. Et ça montre que c'est quelqu'un de très humain. Donc il ne faut pas écouter des fois ce qu'on dit, parce qu'on dit tellement de choses sur les acteurs, de toute façon. Bon, en France, des fois, on est un peu les champions de la critique. Hein, quand Jean Dujardin, il fait l'ouverture de la cérémonie d'ouverture de rugby, on n'a rien trouvé mieux que de tout critiquer, quoi. Il y a un moment, on a envie de dire aux gens, moi, souvent, même moi, je fais des films qui ne sont pas forcément très bons, mais j'ai toujours respecté le travail, en fait. Moi, ça ne m'a pas plu, mais je ne vais pas être assassin et je ne vais pas sortir des trucs. On se dit des fois, les gens, ils vont beaucoup trop loin, en fait. Fait ce qu'il a fait, monter en haut d'un câble jusqu'en haut de cette fausse tour Eiffel qu'ils ont mis, créer des choses, essayer des choses, en fait. Et je pense qu'il faut, des fois, on n'a pas assez de respect, en fait. Et on ne voit pas les choses comme le Astérix et le Obélix de Guillaume Canet, quoi. Ça a été trop loin à un moment donné, les critiques. Je pense que dans la promo, il y a des choses qui ont été ratées, mais ça méritait pas ça. Le film ne méritait pas ça, je pense. Il y a des choses qui sont critiquables, oui, bien évidemment, mais je pense que ça a été trop loin. Donc des fois, moi, je suis beaucoup pour qu'il y ait plus de bienveillance et qu'on soit un peu plus, oui, un peu plus avec de l'amour entre nous, quoi. Qu'on n'aime pas, c'est bien, mais des fois, la manière dont on le dit, ouais, ça, c'est un peu blessant. Bon, Jean, il est armé par rapport à ça, hein, depuis le temps. Mais c'est toujours un peu quand même décevant, je pense.
Ouais, c'est clair. Bah, ça doit pas être simple tous les jours, c'est sûr. Il y a un dernier élément que je voulais voir avec toi, un truc qui me passionne aussi, encore plus que l'IA, et je pense qu'il me passionne aussi, c'est tout ce qui est le storytelling. Et tu pratiques un métier qui est vraiment à l'intersection entre l'image animée, l'image fixe, l'univers du cinéma et la photographie qui va être plus à visée commerciale ou journalistique parfois quand ça va être dans le cadre d'un magazine sur le cinéma par exemple. Comment tu gères ton cadrage et comment tu penses ton cadrage en matière de storytelling? Est-ce que tu vas avoir tendance à t'appuyer vraiment sur ce que met en place l'équipe de tournage autour de toi ou est-ce que tu vas être au contraire plus acteur de ton cadrage, du storytelling que tu vas mettre dans ton image?
Alors moi, je suis vraiment à l'opposé de la caméra, c'est-à-dire que surtout que j'ai vraiment une philosophie de dire, vu qu'on nous compare souvent au photogramme, ben moi souvent j'ai envie de dire, mais moi je vais vous faire quelque chose de totalement différent. Donc j'ai jamais la même focale. Des fois, ça peut m'arriver d'être à côté de la caméra, mais j'aurais pas du tout le même réglage, j'aurais pas du tout la même optique en fait, donc j'aurais pas le même rendu. Moi, j'aime bien travailler. Alors je ne travaille qu'avec des focales fixes, toujours à pleine ouverture, et j'adore travailler au 135 mm. Donc j'ai un rendu sur mes images qui est vraiment va être totalement différent. Moi j'aime le rendu où j'utilise le décor dans un espèce de flou et de voir comment je vais pouvoir travailler ce flou sur mes arrière-plans pour que l'acteur ressorte et que l'émotion ressorte de l'acteur. Donc moi quand je lis un scénario, je lis d'abord le scénario, je suis imprégné, mais sur ma journée de tournage ça va que être essayer des choses, mon matériel différente. Donc je regarde même plus du tout le combo. Au début de ma carrière, je regardais le retour vidéo, effectivement, de la caméra. Maintenant, je ne le regarde même plus, en fait. Et je me fais confiance et je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Et puis après, je m'amuse là-dedans. Tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que je cherche tout le temps. Et c'est aussi pour ça que je suis à la focale fixe, pour avoir ce côté-là de bouger tout le temps. Bouger, changer d'optique, essayer. Rater. Moi, j'ai pas honte de dire, il y a des photos qui ne sont pas bonnes, en fait. Mais j'ai essayé. Et je pense qu'un bon photographe plateau aussi aujourd'hui, c'est ça. Cette force de proposition et sans déranger les acteurs. Hein, faut faire attention à tout ça parce que des fois, les acteurs qui n'aiment pas quand vous êtes dans leur regard, par exemple. Donc, il faut savoir avec qui vous le faites, comment vous le faites, comment vous êtes discret ou pas. Moi, ça peut m'arriver des fois même de faire des photos en étant caché derrière le perchman ou la perchiste et de décaler juste l'appareil photo et avec l'écran orientable, de juste cadrer comme ça ma photo. Hein. Donc, des fois, je me mets dans des positions pour essayer de chercher un cadre. Sachant que souvent le cadre parfait est souvent le cadre de la caméra. Hein, mais ça m'empêche pas de chercher en tout cas.
Ok. Bah écoute, c'est super intéressant. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager avec les gens qui nous écoutent, peut-être ceux qui aimeraient se lancer dans ce métier, qui ne savent pas trop par quoi commencer, par où commencer et par qui contacter peut-être?
Ouais, souvent le conseil, il faut pas. Alors, les gens à contacter, c'est les producteurs, puisque c'est eux qui vont vous employer. Ne les contactez pas trop tôt. Ayez quand même un petit book de plateau. Et la chose la plus simple à faire, c'est de commencer par des courts-métrages. Selon les régions où vous êtes, vous avez souvent des bureaux de tournage. Vous pouvez vous renseigner sur les courts-métrages qui vont être faits. Vous pouvez vous rapprocher aussi des écoles de réalisateurs, écoles de cinéma. Vous en avez souvent dans pas mal de villes. Et vous pouvez proposer vos services, alors dans un premier temps gratuit, mais au moins pour vous faire la main. Parce que il faut se mettre à la place d'un producteur qui veut vous employer. Il va se dire, est-ce qu'il sait ce que c'est qu'un plateau de cinéma? Est-ce qu'il va pas me faire tomber la caméra, faire tomber un projecteur parce qu'il sait pas? Est-ce qu'il va pas gêner l'équipe technique? Donc, proposez déjà quand même un premier travail pour avoir conscience du plateau. Et quand vous sentez que vous avez un travail fourni sur la photo de plateau pure, couleur, ben là vous pouvez démarcher du coup des producteurs, démarcher dans vos régions aussi, hein, parce que ce qu'il faut comprendre des fois, c'est que des producteurs, quand ils vont tourner, je prends un exemple dans le sud-ouest, il faut qu'ils prennent des techniciens sur place, parce que la région leur donne de l'argent, et en échange, il faut qu'ils emploient des gens sur place. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose que vous pouvez essayer de développer. Tout n'est pas à Paris. Il faudrait dédramatiser ça, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent en province aussi, donc c'est tout à fait possible. Mais n'ayez pas peur de démarcher. Si vous avez envie de faire ce métier, il faut y croire. Moi, vu de là où je viens, je serais mal placé pour dire que c'est impossible. Tout est possible pour moi.
Trop cool. Mais écoute, merci pour ce témoignage super intéressant et super optimiste. Ça fait du bien à écouter et je pense que ça aura fait du bien à pas mal de gens. Donc, merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, je reste toujours joignable effectivement sur Instagram. Et si je ne vous réponds pas tout de suite, je dis souvent aux gens, n'hésitez pas à me harceler, à me relancer, parce que ça, des fois je suis en tournage et je peux ouvrir un message et je dis ah oui, je vais répondre. Et puis j'ai oublié le soir quand je rentre. Et donc du coup, il ne faut pas hésiter à me relancer. Mais je reste toujours disponible pour des questions. Et puis allez voir le site de PFA, il est plutôt très bien fait. Il explique beaucoup de choses sur le métier de photographe plateau. Et puis. Des podcasts aussi, donc il y a celui-ci, mais il y en a d'autres que j'ai déjà fait aussi qui pourront aussi vous renseigner sur le métier.
Yes, et donc l'URL, c'est pfa-photo.com, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement.
Super, on revoit les gens dessus, et puis merci encore, Christophe.
Merci à toi, bonne fin de journée.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussé pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.